Bonheur, quiétude, zénitude, bien-être sont autant de mots qui riment plus souvent avec des périodes de vacances ou des temps suspendus dans nos vies où, dès la reprise, les rythmes s'emballent, le stress et les tensions colorent une partie des existences, générant anxiété et autres maux dits de nos sociétés. Mais est-ce une fatalité ? Eh bien, pas forcément. De plus en plus de voix s'élèvent pour appeler à ralentir, à gagner en plaisir et en confiance dans nos vies quotidiennes, sur une planète qui demande elle aussi à abriter une autre humanité, moins prédatrice de ses ressources. Alors, pour que les rentrées riment avec sérénité, de l'école au monde du travail, quelle société faire advenir ? C'est la question que nous allons nous poser avec nos deux invités, Françoise Nyssen. Ravie de vous accueillir, vous êtes éditrice, vous avez pris part pendant des années à la direction des éditions Actes Sud. Vous êtes ancienne ministre de la Culture, autrice aussi, je mentionne votre livre « Plaisir et nécessité », un livre paru chez Stock. Et vous êtes cofondatrice avec Jean-Paul Capitani de l'école du domaine du possible, on va en parler. Cyril Dion, ravie d'être avec vous et merci d'être avec nous. Vous êtes réalisateur, auteur, poète, on vous doit notamment le petit manuel de résistance contemporaine, un livre paru chez Actes Sud, et puis tout récemment, un recueil de poésie préfacé par Nancy Houston, La route sans fin, paru au Castor Astral. Et je précise que vous êtes à l'origine de la collection Le Domaine du Possible, créée chez Actes Sud en 2011. Bienvenue à toutes et à tous dans le magazine de l'environnement de France Culture, en partenariat avec le journal Le Monde, préparé par Corinne Amard avec la collaboration de Lily Cornaer, Vanessa Tchang, et celle des équipes de documentation de Radio France que je salue, émission réalisée par Alexandra Malka avec à la technique Élise Le.
C'est mardi, hein, j'ai eu un coup de fil qui m'a dit on vous livre les tables lundi après-midi. Je dis mais non, c'est pas possible, lundi, les élèves seront là le matin. Donc a priori.
Mais la réunion de pré-rentrée ne chasse pas toujours les angoisses, même chez les plus expérimentés.
C'est ma 35e rentrée. Et j'ai toujours, le premier jour, le ventre serré, quoi, comme, un peu comme les élèves. Très rapidement, ça passe. Mais voilà, toujours cette angoisse de cette responsabilité qui nous est confiée.
Allez, tu sors ta trousse.
Jeanne va entrer en CE1. C'est déjà l'heure de reprendre les bonnes habitudes.
Ça fait drôle d'écrire. Hein. T'as pas oublié ?
Charlotte, elle, entre en troisième.
Et là, on va reprendre les cours. Le réveil, c'est très dur. Et puis, travailler comme ça, se remettre dans le rythme, faire un travail quotidien que je fais plus là pendant 2 mois, c'est... Et après, c'est chaque rentrée la même chose. Mais bon, il faut juste que je m'habitue, quoi.
Eh oui, changer la donne, changer nos vies, mais ces rentrées restent souvent sous le signe du stress dans un monde traversé de crises multiples. Alors peut-être, première réaction, est-ce que c'est le résultat imparable de nos sociétés modernes ?
En tous les cas, Françoise Nyssen, qui m'étonne, c'est justement cette notion de l'année passée. Alors cette année, je n'étais pas là pour la rentrée de l'école du domaine du possible, mais l'année passée, je me lève, j'écoute France Culture, j'entends les reportages sur c'est dur, c'est la rentrée, on y va avec un peu le cœur gros, le cartable lourd, qu'est-ce que ça va être encore, pourquoi ? J'arrive à l'école du domaine du possible et là je vois, waouh, la joie, l'envie, ça chante, ça fait de la musique, on est accueillis, enfin les profs chantent pour accueillir les enfants et là je vois la joie et je me dis, alors, c'est possible.
Mais voilà, hein, c'est possible finalement de changer cela, ralentir, renouer avec une plus grande sérénité, parier sur l'intelligence collective. Alors, c'est ce qui vous guide tous les deux, hein, Cyril Dion.
Ouais. Moi, j'ai 2 enfants qui ont 16 et 19, et mon fils qui fait des études de cinéma, c'est hyper original, rentre en 2e année là, et il me disait, c'est la première fois que j'ai envie de retourner à l'école. Et malgré tout, ça raconte quand même quelque chose. Ça raconte quelque chose du fait que quand on a le sentiment de pouvoir choisir et quand on est traversé par du désir, ça se passe quand même mieux quand on a l'impression d'être obligé qu'il y a quelqu'un qui nous oblige à faire des choses.
Et ça devrait nous questionner un peu plus quand même, ces moments-là qu'on vit, avec un peu la boule au ventre, ou quel que soit d'ailleurs l'engagement formidable, il faut le rappeler, des enseignants. Hein, c'est le système tel qu'il est conçu, qui pourrait être même amélioré, soulagé aussi pour eux, hein, parce que ce stress, ils le vivent. En tout cas, on voit bien que la façon dont on pense la vie, la ville, l'école, a forcément une incidence sur la vie des gens.
Mais je voudrais revenir sur un mot que tu as utilisé, Cyril, qui est très important. Vous avez évoqué l'idée de plaisir. Il se fait que bon, le livre que j'ai commis, c'est plaisir et nécessité. C'est pas le bon terme. Tu as parlé de désir, et c'est ça qui est important, parce que plaisir et désir, c'est pas du tout la même chose. Mmh. Et quand on essaye de satisfaire des plaisirs, on va vers forcément à la catastrophe, parce qu'une fois que le plaisir satisfait, on est dans le vide et on ne sait pas, et c'est incessant. Tandis que quand on est dans le désir, ça permet d'être un moteur pour avancer. Et je crois que c'est ça le miracle de l'école où est Pablo, c'est qu'il a le désir d'y aller. Et donc, il est moteur de son avenir.
Ouais. Alors, on peut peut-être s'arrêter un tout petit peu sur votre parcours rapidement, hein, Françoise Nyssen, bien sûr. Mais il faut quand même dire qu'au-delà d'être éditrice, et donc cette femme dans ce monde de la culture, des lettres, des idées, des pensées, etc., vous êtes forte d'un bagage scientifique, tout le monde ne le sait pas, chimie, spécialisée aussi en biologie moléculaire. Vous avez fait ensuite de la recherche fondamentale en mécanismes cellulaire, une maîtrise d'urbanisme avec comme sujet ségrégation sociale, ségrégation spatiale, et engagée dans des comités de quartier à Bruxelles, dans des luttes urbaines contre la puissance immobilière, le capitalisme, etc. C'est important quand même de le dire parce que, bien sûr, on va parler de l'école, on va parler de la culture, mais aussi ça résonne tellement dans toutes les strates de la société et avec des incidences sur à tous les niveaux. Donc, toujours important de donner ce qui est votre bagage en signalant que vous avez toujours eu cette croyance dans le dialogue aussi face au cynisme du monde moderne.
Et dans le être dans la proximité avec les gens, et c'est ce qui m'a été édifiant pour moi à travers les luttes urbaines, c'est que tout d'un coup je réalisais à quel point on pouvait agir quand on était au plus près des gens. Et je rebondis aussi sur ce qu'a fait Cyril tout le temps, et ce qu'il a essayé d'accompagner à un moment donné en espérant de cette fameuse convention citoyenne, c'est qu'il n'y a pas meilleure façon de faire de la politique que de la faire avec entre citoyens, et à partir des gens, et pas d'en haut.
Et pas d'en haut. On aura l'occasion d'en parler, effectivement. Écologie et démocratie, hein, Cyril Dion, deux sujets aussi de préoccupation majeure pour vous. Et donc, à travers les livres aussi, vous avez estimé qu'il y avait un rôle à jouer, et pas n'importe quel livre. On ne publie pas un livre parce qu'il va marcher. Hein, ça, j'ai retenu ça dans votre livre aussi. Françoise Nyssen, vous dites, on se donne les moyens de faire exister ce qu'on pense nécessaire, ce qu'on a envie de faire lire. Voilà, la qualité des livres avant la mode et avant la notoriété d'un auteur. C'est aussi ces livres-là, il vous a semblé, et là on peut parler de la collection du domaine du possible, hein, Cyril Dion, c'est que les livres avaient leur rôle à jouer.
Ben oui, moi je sais plus comment ça s'appelle cette maladie d'acheter des livres et de pas les lire là, quand on les empile.
Ah, moi je les achète et je les lis, donc je sais pas si c'est une autre maladie peut-être.
J'en lis aussi un certain nombre, mais ce que je veux dire c'est que la proximité des livres a toujours été quelque chose de fondamental pour moi, oui. Je pense que dans un livre on a le temps de plonger dans une qualité de présence, de concentration et dans la compréhension assez vaste du monde. On voit bien que on vit dans une société où on est de plus en plus fragmenté, où on est sur des smartphones, où il faut faire le plus court possible, on est sur TikTok ou sur Instagram, où tout d'un coup il faut que ce soit des trucs de 30 secondes, d'une minute, de 2 minutes.
Instantané, qu'on oublie dans l'instant aussi en général.
Exactement, oui, enfin qui peuvent parfois nous frapper, mais en tout cas... Ouais. On a peu de temps profond. Et c'est vrai que face à certains enjeux, et puis de toute façon, de façon générale, rentrer dans du temps profond, ça me paraît être indispensable. Et le livre permet ça. Et c'est vrai que quand on a créé le domaine du possible, on avait envie de donner la parole à des personnes qui pensent le monde différemment, enfin qui pensent un monde où on pourrait retrouver une forme d'équilibre entre toutes les formes de vie, et qu'ils le mettent en pratique. C'est-à-dire qu'on voulait pas, ça tenait très à cœur de Jean-Paul Capitani, avec qui on a créé la collection, c'était de dire, bon, c'est bien de penser, mais à un moment, il faut mettre sa pensée à l'épreuve de la pratique. Donc on voulait aussi des personnes qui aient pris le temps de vérifier si ça marche un peu.
Donc des auteurs, des autrices qui pouvaient nous aider, qui nous aident d'ailleurs, hein, à lire le monde, à trouver des solutions inspirantes, parce que œuvrant sur le terrain.
Ouais. qui à la fois peuvent avoir réfléchi, par exemple, on a fait un livre sur le revenu de base, on a fait un livre sur...
Les villes en transition.
Les villes en transition. On a fait un livre sur les incroyables comestibles, ce mouvement en Angleterre qui fait des potagers un peu partout. On a fait des livres sur manger local, donc réfléchir à des gens qui ont relocalisé leur alimentation et ce que ça pouvait faire. Je pense qu'on a traité un peu tous les sujets, que ce soit l'économie, l'économie symbiotique d'Isabelle Delannoy. On a fait le manifeste Négawatt, donc qui sont deux manuels de transition énergétique qui ont fait date.
Emmanuel Druon aussi, de mémoire, je crois.
Emmanuel sur l'économie, sur leur expérience chez Pocheco.
Voilà, dans l'entreprise, etc. Comment transformer avec des expériences sur le terrain qui fonctionnent. Et du coup, Françoise Nyssen, de là est née... On peut dire tout un écosystème cohérent, c'est-à-dire qu'il y a la maison d'édition, un lieu culturel, une école, une ferme, un lieu de formation en agroécologie, tout ça relié, se nourrissant les uns les autres.
C'était une façon de vivre et d'être, je dirais, que nous avions Jean-Paul et moi. On s'est vraiment rencontrés sur cette envie de faire ensemble et de pas être uniquement dans des grandes théories, mais d'être aussi... Puis d'une certaine façon, j'ai fait de l'urbanisme, j'ai toujours été très intéressée par tout ce qui était vernaculaire, qui se construit au fur et à mesure, comme les organismes vivants. J'ai travaillé sur la cellule, c'est la même chose. Et donc, les choses se sont faites en se faisant, et souvent grâce aux rencontres. Et je suis très heureuse que Cyril soit là aujourd'hui, parce que c'est la rencontre avec Cyril a été fondatrice aussi pour Jean-Paul et moi dans ce
projet. Processus.
Donc c'est vrai que Jean-Paul lui-même était ingénieur agronome et paysan. Il a fait du vin sans produits chimiques il y a
très
60
tôt.
Ans. Voilà, il avait un troupeau de moutons. Donc il était déjà dans ce côté très terrien et en même temps très visionnaire, très architecte de l'avenir. Moi, j'étais avec ce passé de militante de terrain, avec les luttes urbaines. C'est vraiment ce qui m'a le plus fondée, je pense. Et on a essayé de mettre tout ça en place. Donc l'idée, clairement, qu'on ne peut pas travailler à un endroit et ne pas être aussi citoyen de là où on est. Et donc, on agit. Donc là, c'était à travers d'abord la culture, un lieu culturel, développer l'écosystème autour de cela, concerts, lectures, etc. Et puis comme... on a très vite été concernés, on a essayé d'accompagner 7 enfants, maintenant 14 petits-enfants. Donc la question de l'éducation nous paraissait vraiment quelque chose à reprendre et à réfléchir pour que, voilà, il y ait une envie d'apprendre, apprendre à apprendre, envie de devenir adulte et pas d'être terrorisé par le jour de la rentrée.
Ça.
Et donc, on a, comme Jean-Paul avait une propriété... familiale en Cro. Quand Antoine nous a quittés, il a décidé que l'héritage...
Antoine, c'est votre fils, on va en parler.
Il a décidé que cet endroit serait le lieu de la création d'une école à laquelle on pensait déjà depuis longtemps. Et voilà. Et on l'a fait en la faisant. Donc ça a ajouté. Puis il y a encore un autre lieu que Jean-Paul avait de famille. Et au lieu de faire ce que font les gens en général, de faire fructifier ces lieux, il a ouvert une espèce de tiers-lieu d'accueil, d'expo, librairie.
Toujours avec l'envie d'offrir aux citoyens,
petit amphithéâtre, c'est ça, voilà,
offrir le meilleur et accueillir. Et donc l'envie d'offrir aussi ce bien-être, Françoise Nyssen, à des enfants qui ne trouvent pas leur place dans le système scolaire classique.
Nous sommes ici dans un espace qui est un grand volume clos. Et dans cet espace, des salles qui sont ouvertes. Si vous voulez, je vous conduis, je vais vous montrer. Vous avez ici deux classes qui, d'une certaine façon, communiquent. Les élèves peuvent se voir.
À l'école du domaine du possible, les enfants sont presque les rois. Ils sont au centre du dispositif d'apprentissage, impliqués, écoutés.
Finalement, nous sommes dans une maison d'édition. Et que fait une maison d'édition ? Elle accueille des auteurs. Elle essaye de comprendre la singularité de chaque auteur. Les enfants sont tous singuliers. Nous voulons que les enfants soient des auteurs et nous ne sommes que des éditeurs. Nous leur donnons donc la tâche principale de nous conduire. Le mot que nous nous sommes donné, c'est celui de la disponibilité.
4 ans que Françoise Nyssen et Jean-Paul Capitani, propriétaires des éditions Actes Sud, travaillent à la création de l'école. Un projet humaniste inspiré par la pédagogie Steiner-Waldorf.
Notre école est quelque chose d'ouvert. On va vers la vie. Quand on a envie de parler de potager, des légumes qu'on va manger, ben on va le faire, on va le pratiquer. Quand on va monter à cheval, on va voir naître les poulains, on va s'occuper des juments. Voilà, on a le, l'intelligence du processus.
La journée s'articulera de telle manière qu'il y ait une vraie respiration avec des cours le matin et en début d'après-midi, je dirais un lien très fort à la terre, à la nature, à l'extérieur et aux activités manuelles. Et puis un retour à soi en fin d'après-midi où chacun travaille pour lui-même.
Reportage diffusé sur France 3 le 7 septembre 2015. C'était vraiment au tout début, hein, Françoise Nyssen. Donc on comprend que cette école est située en Camargue, ça, dans une ferme en agriculture biologique avec quoi 136 hectares, hein, le domaine de la Volpellière, c'est ça ?
C'est ça.
Et donc
aucun intrant depuis 50 ans, donc c'est ça. Un sol très riche.
Très riche en biodiversité, en vivant justement préservé. Et à l'origine de cette école, donc il y a un drame survenu dans votre famille en 2012. Votre fils Antoine, alors âgé de 18 ans, décide de mettre fin à ses jours. Il y a une raison spécifique à ça.
Oui, Antoine était un être extrêmement sensible, extrêmement éveillé et un peu hors cadre. Donc il ne s'insérait pas dans une école qui essaye de faire que les enfants, contrairement à ce que Montaigne disait, l'école, c'est pas l'endroit où on remplit le chaudron, mais l'endroit où on essaye d'allumer le feu en dessous. Et c'est vrai qu'il a été confronté à cette école en silo, où on dit, tu apprends ceci, tu dois devenir cela. Et vu son éveil, sa sensibilité, et aussi des choses dont on parle maintenant plus facilement, et à l'époque, on ne savait pas ce que c'était, dyspraxique, dyslexique, etc. Il était complètement à l'ouest. En fait, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait.
Malgré une capacité de raisonnement
hors norme, bien sûr. Et donc, il a été extrêmement malheureux, et l'école l'a objectivement l'a humilié. Quand au CP, on le met dans un groupe, parce qu'il n'arrivait pas, dyslexique et dyspraxique, à apprendre avec la méthode semi-globale, on le met dans un groupe dénommé non-lecteur, c'est quand même extrêmement grave. Donc on s'est dit, c'est pas possible cette école. Bon, Antoine a eu le chemin qu'il a eu, il est parti à 18 ans avec une maturité hors norme. On peut dire qu'il y a des gens qui vivent 18 ans et c'est comme 100 ans. Mmh. Voilà. Et en même temps, ce qui est important, c'est, comme dit le proverbe africain, ne nous lamentons pas de l'avoir perdu, réjouissons-nous de l'avoir connu parce qu'il nous a tellement appris. Oui. Et c'est vrai que avec tout ce qu'on a appris avec lui, tout ce à quoi il nous a éveillés, on a décidé de consacrer beaucoup de notre énergie et de notre envie de faire à cette école, et qui était un prolongement, je trouve, de notre activité d'éditeur, puisque s'il s'agit de transmission, et que c'est aussi de transmission dont il s'agit. Mais c'est vrai qu'il nous paraissait insensé, alors que l'école doit être une joie, que ça doit être un révélateur pour les enfants, ça doit être un lieu où ils devraient avoir le désir de grandir et devenir des citoyens accueillants, coopérants. Eh bien, c'est un peu l'inverse qui se passe. Et plus particulièrement dans notre pays, où c'est un peu, même carrément catastrophique. Et ceci est incompréhensible, parce que c'est pas du tout difficile d'aller dans un autre sens. Et grâce notamment à Demain et au film qu'a fait Cyril, on a vu dans ce film de façon très claire l'expérience en Finlande, qui était extrêmement évocatrice, avec cette constatation simple, c'est qu'au lieu de mettre beaucoup d'argent dans l'inspection et le contrôle, eh bien on le met dans l'éducation, on n'oblige pas les enfants à être assignés à une place, ne surtout pas bouger, et au contraire à s'exprimer. Et donc, ça nous a poussé à faire cette école. Alors, il y a une petite erreur dans le reportage de cette époque-là, c'est qu'effectivement, le premier directeur de l'école, qui n'est pas resté, et pour cette raison-là, nous, d'entrée de jeu, c'était l'école qui n'était pas l'école d'une méthode. Parce que là aussi, en France, quand on crée une école, la première question qui vous est posée, c'est quelle méthode ? Comme si l'école, c'était une question de méthode. L'école, elle a peut-être une seule chose qui la caractérise, c'est qu'elle peut se développer grâce à l'énergie formidable des enfants. La seule méthode qui soit, c'est l'énergie des enfants. Donc, nous n'avons pas voulu du tout faire une école d'une méthode, et notamment pas du tout de l'école Steiner, qui a été citée et qui a été un peu utilisée quand j'étais nommée ministre pour un peu me disqualifier. Et c'est notamment... Certains hommes politiques aiment bien disqualifier les gens, qui a balancé sur les réseaux sociaux que j'étais anthroposophe et issue d'une secte parce que le directeur de l'école était des écoles Steiner. Ceci est évidemment une fake news, archi faux. Et cet homme n'est pas resté, et depuis est arrivé, et maintenant on va rentrer dans la 10e année, quelqu'un d'absolument merveilleux, qui s'appelle Jean Rakovic, qui a étudié, qui est un docteur en sciences de l'éducation, il a fait sa thèse avec Philippe.
Et qui a enseigné pendant des années.
Et c'est important de le dire, dans des quartiers prioritaires de la ville et dans des zones d'éducation prioritaires. Et donc il a cette double connaissance à la fois de toutes les pédagogies, et en même temps de ce que c'est de se confronter avec des enfants en difficulté.
Et d'autres pédagogies, et comme
c'est pour ça que cet enfant...
Freinet, Montessori, etc. Il y a d'autres pédagogies qui existent, mais vous avez essayé effectivement, vous, avec ce drame survenu, de répondre à la demande d'enfants qui, comme Antoine aujourd'hui, ne trouvent pas leur place dans une scolarité.
Alors, c'est important aussi de dire que c'est pas l'école d'enfants en difficulté, c'est l'école d'enfants. Donc c'est-à-dire que cette école est totalement inclusive sur ce que sont les enfants, c'est-à-dire tous extrêmement différents, un parfait système de biodiversité riche. Et c'est ça qui justement les amène à cette énergie, cette richesse et cette capacité de faire, parce qu'ils sont confrontés aux autres et ils sont tous différents. Oui.
Et donc, une école aujourd'hui conventionnée hein, par les ministères de l'éducation nationale, de l'agriculture, etc.
Et c'est vrai que c'est une école qui est doublement inclusive, parce qu'elle est, je tiens à le dire d'entrée de jeu, parce que c'est évidemment c'est une façon de toujours mettre à distance ces expériences qui se font en dehors de la norme. C'est une école qui est doublement inclusive sur le profil des enfants qui viennent y étudier. Et socialement, puisque les familles qui n'ont pas les moyens, puisqu'on doit trouver les moyens pour mener cette école, sont aidées par le fonds de dotation. Donc on est sur une école où c'est une école de la vie, en fait, telle que devrait être la vie.
Cyril Dion, vous la connaissez cette école, hein, je crois que vous êtes intervenu aussi, vous connaissez bien le lieu.
Oui.
On peut peut-être en parler justement sur le dispositif ou ce que ça donne en fait à ces enfants, au-delà de l'accueil bienveillant, en tout cas le dispositif personnalisé pour progresser, chacun son rythme, expérimenter les talents, les possibilités, garder la confiance.
Moi j'étais très malheureux à l'école, je détestais l'école. J'ai deux enfants qui ont eu pas mal de difficultés avec l'école. Ma fille est encore en phobie scolaire, donc elle fait l'école à la maison. Et donc c'est un sujet sur lequel je me suis penché assez tôt. Et c'est vrai que quand on a fait demain, on a cherché des endroits où on n'était pas dans les mêmes structures et dans les mêmes injonctions. Parce que c'est vrai que ce qui est super dans l'école du domaine du possible et dans beaucoup d'écoles qui cherchent à faire autrement, on a fait un livre notamment sur l'école du colibri. Dans la collection du domaine du possible, qui est une école dans la Drôme à La Roche-sur-Grane, c'est de dire aux enfants, finalement, il n'y a pas une seule façon d'apprendre. Là, la plupart du temps, à l'école, on apprend beaucoup avec l'abstraction et beaucoup avec le logico-mathématique. Et il se trouve qu'il y a des enfants pour qui ça marche pas. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec l'abstraction. Donc pendant des années, j'étais persuadé que j'étais vraiment nul dans un certain nombre de domaines. Alors que, en sortant de l'école, je me suis rendu compte que j'avais appris énormément de choses. Et qu'à la limite, le plus grand nombre de choses que j'avais appris, je les avais appris hors de l'école. Donc ça me posait question. Donc je me suis mis à discuter avec des gens qui étaient très qualifiés en pédagogie et tout ça. Et qui me disaient, évidemment, enfin, vous voyez bien que vous apprenez des choses tout le temps. Par exemple, vous n'avez pas appris à marcher. Il n'y a pas quelqu'un qui vous a donné des cours de marche. Ah bah non, c'est vrai. Mais vous n'avez pas appris à parler non plus. Ah bah non, c'est vrai, pourtant c'est compliqué. Oui.
Simplement... Après, vous avez pu avoir des sollicitations ou des parents, etc. Il y a quand même un accompagnement, quoi qu'il arrive.
Vous avez été sollicité, effectivement. Vous avez été confronté à des situations où vous avez cherché à comprendre ce qui se passait, où vous avez la nécessité d'aller chercher un savoir. On n'apprend jamais mieux que quand on a besoin de quelque chose pour pouvoir accomplir une tâche. Donc typiquement, par exemple, apprendre les mathématiques, pas de façon abstraite, mais les apprendre dans une situation donnée. Là, il se trouve que à l'école du Colibri, par exemple, il y a une ferme, et à l'école du domaine du possible aussi. Pouvoir faire des fractions en faisant du lait, par exemple, ou en allant ramasser des légumes, parce que on est dans une situation particulière où ce savoir va être tout de suite appliqué. Tout d'un coup, c'est beaucoup plus simple, et on le retient beaucoup plus vite. Et c'est vrai que mes enfants, aujourd'hui, j'aurais adoré qu'ils puissent rencontrer des écoles comme ça, où on leur donne la possibilité de... Je me souviens encore, et je terminerai avec ça, mais je me souviens encore de la Finlande, justement, où on discutait avec le directeur de l'école, Kari, et je voyais comment cette école fonctionnait, où effectivement les enfants étaient extrêmement libres, où il y avait plein de façons d'apprendre, où les enfants, par exemple, pendant les contrôles, je les voyais qui regardaient sur la feuille de l'autre. Je dis, il est en train de copier, lui. Il n'a pas le droit. Et il me dit, non, il est en train d'expliquer à l'autre.
C'est la coopération.
Oui, mais quand même, on n'a pas le droit de faire ça. Il me dit, si, pourquoi? Si il lui explique mieux que le prof et qu'après, il a compris. C'est ça qu'on veut. On veut qu'il ait compris. On s'en fout de savoir s'il a une bonne note ou une mauvaise note. On veut qu'il ait compris. Et moi, je me disais, ah bah oui, d'accord. Mais je disais, mais parce que nous, c'est pas du tout comme ça. Puis je disais, nous, en plus, très souvent, l'école, c'est encore un prof qui est sur une estrade, qui parle pendant une heure, des enfants qui notent pendant une heure, et puis après, qui recrachent ce qu'ils ont noté dans un contrôle. Il me dit, oui, je sais, c'est le problème des pays en voie de développement.
Alors peut-être que tous les profs, c'est attention, que... ne font pas comme ça, parce qu'il faut quand même reconnaître que beaucoup sont investis, essayent de s'investir.
Oui. On a quand même beaucoup ça. Et il me disait,
et que les moyens donnés ou dans des classes surchargées, parce que là, on parlera aussi des effectifs, c'est vrai que quand même, parfois, les conditions sont pas idéales non plus. Pour les enseignants.
On parlera de la formation aussi. Oui. Il me disait, c'est le problème des pays en voie de développement, donc ça me faisait rire qu'il parle de la France comme ça, c'est qu'on n'apprend pas aux enseignants la pédagogie, donc après on les lâche dans des classes, ils savent pas quoi faire, donc ils parlent pendant une heure. Et en fait, là-bas, ils ont deux années entières consacrées à la pédagogie. Ils n'apprennent que la pédagogie. Et une fois qu'ils se retrouvent devant des classes, ils ont d'autres enseignants qui les regardent, et qui leur donnent des conseils, un peu comme si vous répétiez, qui disent, bah là, t'étais un peu chiant, tu vois, ils étaient en train un peu de s'endormir. Puis alors, du coup, comme t'es chiant, bah du coup, ils se mettent à discuter. Tu vois, ça les intéresse plus. Ils disent, ah oui, d'accord, mais pourquoi? Bah parce que, à ce moment-là, tu vois, dans la façon dont tu t'es adressé à eux, peut-être qu'il y en a un qui a décroché, peut-être que c'était pas clair, peut-être que c'était pas concret. Et en fait, tout ça, c'est fondamental. Et aujourd'hui, en France, on passe beaucoup de temps à apprendre sa matière, mais assez peu de temps à apprendre de la pédagogie. Et ça, c'est un vrai problème.
Alors, je vous propose de retourner justement à l'école du domaine du possible.
Un refuge, une bulle sans punition ni note pour ces 30 élèves comme Anita.
On a envie d'aller à l'école maintenant. Dans mon ciné-école, le matin, je disais « Oh non, j'ai pas envie d'y aller maintenant. »
Quand il y a les vacances, je me dis « Oh non, pitié. »
Ils nous apprennent tellement mieux qu'en fait, c'est très facile d'apprendre.
Le secret de cet apprentissage se dévoile derrière la porte d'une ancienne église. Des petits groupes, de la musique et même du jardinage l'après-midi. Et qu'on ne s'y trompe pas, oui, ces enfants de 8 à 14 ans travaillent.
La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue.
Ils disent pas qu'il faut le faire. Ils disent s'il vous arrive pas, bah vous allez apprendre.
Avant j'avais des bonnes notes, mais je stressais à chaque contrôle et à chaque devoir, donc c'était pas super facile.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Françoise Nyssen, alors parlez-nous un petit peu, peut-être des profils des élèves, mais surtout, alors il faut quand même préciser pour les auditeurs, là on a écouté un reportage diffusé sur France Inter le 12 janvier 2016, depuis donc des années se sont écoulées, en 2015 il y avait une vingtaine d'élèves, aujourd'hui on est à plus de 100.
On est à 120.
Et donc de la maternelle au collège. Voilà.
À la fin du collège, parce que je crois que c'est important de prendre le collège.
Tout à fait.
C'est pas facile, parce que c'est beaucoup plus difficile que faire une école primaire, il faut beaucoup plus de... Mais ça permet aussi de repenser les apprentissages. Et là, ils ont vraiment travaillé sur des blocs d'apprentissage, et ils travaillent aussi par projets transversaux, en mélangeant les âges et les classes. Et c'est très intéressant de voir que les trois blocs principaux, je crois, les complexes d'apprentissage, c'est bien sûr les humanités, philo, histoire, français, langue. Il y a le bloc scientifique, où c'est évidemment physique, maths, chimie, technique. Et puis, il y a un bloc aussi important que les deux autres qui s'appelle nature et terre vivante.
Eh oui.
Et c'est là où ils apprennent vraiment le rapport à la vie et comment mêler le tout. Et donc, c'est très, très, très important. Et si... Jean Rakovich, maintenant qui dirige l'école, fait une métaphore qui me paraît très intéressante par rapport à l'éducation. L'éducation, ça peut être... La métaphore, c'est l'agriculture. Par exemple, il y a l'agriculture intensive-extensive. On appauvrit les sols. Et c'est peut-être ce qui peut se passer dans une éducation où tout le monde pareil, et il faut que tout le monde soit exactement dans le même type d'apprentissage. C'est une question d'équité. Enfin, c'est vraiment le terme qui est à la bouche de tout le monde. Ou bien... on fait de la permaculture, on fait un design par endroit où on est, par école, et on essaye d'adapter au contexte où on est, au milieu, une façon d'appréhender l'éducation. Et c'est possible, parce qu'on essaye de montrer, c'est pas une école mieux que les autres, pas du tout. Mmh. C'est vraiment de dire, il est possible d'envisager, d'accompagner ces enfants pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont appelés à devenir. Et pour surtout qu'ils deviennent aussi des citoyens coopérants, accueillants, fraternel et responsable. Et je pense que ça, c'est quand même une des choses les plus importantes au jour d'aujourd'hui.
Et qu'ils expriment leur potentiel, qu'ils se retrouvent à leur place. Et du coup, avec la culture aussi, les arts. Bon, il y a le jardin, il y a le ménage à chevaux, il y a les terrains de jeu, il y a le potager, etc. Donc on voit qu'ils ont beaucoup de choses. Mais il y a ce contact avec le vivant pour qu'ils en prennent soin aussi, qu'ils deviennent conscients de la nécessaire sauvegarde de la vie.
Absolument, mais ils sont. C'est le une école, ça doit être tout ça à la fois. Je veux dire, c'est pas uniquement l'école dans la nature. C'est aussi l'école où les enfants apprennent à faire la cuisine, mettent la table, nettoient leur classe. C'est aussi l'éveil aux sensibles. Je ne vois pas comment on peut accompagner un enfant sans l'accompagner par le sensible. On est, comme dit notre chère Nancy Houston, en naissant, nous sommes déjà romans, nous sommes culture. Et comment imaginer de les accompagner dans leur processus en ne les confrontant pas de façon mais essentielle à un art quel qu'il soit? C'est la seule façon qu'ils auront de peut-être communiquer avec l'autre et partager. Tant qu'ils n'ont pas ça, ils ne savent pas qu'ils peuvent partager, ils peuvent s'isoler, aller vers la violence, s'enfermer sur les réseaux sociaux, sur l'informatique. Donc l'éveil au sensible, il est de base. Et je pense que ça peut faire toute la différence. Conclusion, ce sont des enfants qui ont tous un instrument entre les mains et qui sont venus en juin dernier, ici, dans cette maison, avec Orchestre à l'école, donner un concert.
Avec l'orchestre de Radio France, c'était
avec
en
des
juin
enfants
2024.
Qui avaient, par exemple, pour la première fois en début d'année, un violon, un violoncelle entre les mains, et ils étaient là, en train de jouer la symphonie de Bizet. Donc,
Oui, et il faut préciser aussi, Cyril Dion, comme vous connaissez bien cette école, c'est que la pédagogie est porteuse aussi de valeurs humanistes, telles que celles défendues par Michel Serres, Edgar Morin, etc. Et que ces élèves bénéficient d'interventions d'auteurs, d'autrices, si je ne m'abuse.
Voilà, autant que faire se peut, et selon qu'ils aient la disponibilité, oui, on est ravis, je suis ravie de... Parce que Nancy Houston va venir passer une partie de l'hiver à Arles.
Elle va venir à l'école du domaine du possible.
À l'école. Et chaque fois, c'est une joie partagée. C'est une joie à la fois pour l'auteur et c'est une joie pour les enfants qui sont extrêmement curieux. Ce qui est développé chez eux, c'est la question de l'interrogation, de l'autre. Et quand on nous pose la question, parce que c'est souvent la question lancinante chez tous les élèves, alors qu'est-ce qui se passe quand ils retombent dans le système, entre guillemets, dit normal? Eh bien, ça se passe extrêmement bien, parce que ce sont des enfants qui ont appris à poser des questions, à être curieux.
Donc la suite se passe bien au niveau du lycée et de
absolument.
L'université.
Au contraire, je pense même qu'elle peut se passer mieux, parce qu'ils ont appris à être, à maîtriser leur devenir. Et ça, c'est énorme. Et ils sont préparés. C'est tout à fait différent. Ils ne subissent pas.
Cyril Dion, je me tourne vers vous parce que à ce stade de l'émission, on a encore plein de choses à dire. On va écouter votre choix musical. Et donc, vous avez choisi une artiste, Carla Morrison.
Absolument, Carla Morrison. C'est ma découverte de l'été. J'ai écouté ça tout l'été, donc je me suis dit que j'allais partager ça avec vous.
Et elle chante.
Alors, c'est laquelle que je vous ai...
Je vous aide ou quoi?
Parce que
on est à l'école de l'entraide, alors.
Hasta
la piel.
La piel.
No te quiero perder. Que la distancia se devore nuestra miel y perdamos la fe. No te quiero tener. Y cuando menos piense perderte otra vez, me duele hasta la de mí. Semillas tengo de ti y sin ti pueden querer morir. Quiero sentarme a llorar, sacar de adentro mil cosas que te quiero decir. Siento tan débil sin ti, quiero guardarme a la moral, darte unos besos que quizás tenga que robar de tu boca mía, mía.
C'était Carla Morrison. Hasta la piel, et c'est le choix musical de Cyril Dion. C'est la suite, bien sûr, de Cause à effet, le magazine de l'environnement de France Culture. Nous sommes en direct et en compagnie de nos deux invités, Françoise Nyssen, éditrice, ancienne ministre de la Culture, cofondatrice de l'école du domaine du possible, et Cyril Dion, réalisateur, auteur, poète, à l'origine de la collection co-créateur, cofondateur avec Jean-Paul Capitani, de la collection Le domaine du possible, créée chez Actes Sud en 2011. Eh bien, nous regardons du côté des rentrées, et pour que les rentrées riment avec sérénité, quelle société faire advenir ? Françoise Nyssen, peut-être une société où la musique est reine, non ? Parce que la musique aide à apprendre.
Oui, la musique aide à apprendre et l'école du domaine du possible le montre absolument. Enfin, les enfants de l'école le montrent parce qu'ils ont inventé un dispositif et c'est eux qui l'ont mis en place avec leur professeur. Ils ont imaginé une méthode pour apprendre. Une année, ça a été la grammaire. Cette année, c'est la géographie. L'année prochaine, ce seront les mathématiques. Et le processus est le suivant. En musique, les élèves de CM1, CM2 écrivent en poème les règles de grammaire, les données de géographie, la liste des fleuves, les départements, mais aussi l'accueil de l'autre, mais aussi la crise climatique, mais aussi l'économie circulaire, etc. Et les plus grands composent de la musique. Et ensuite, ils mettent tout ça ensemble et ils en font un spectacle, c'est-à-dire qu'ils le restituent, ils apprennent aussi à le restituer. Mmh. Et c'est souvent dans la joie. Cet été, la géographie en musique, il y a eu 3 représentations à Avignon, c'était assez incroyable. Et ils en font un livre. Donc ils ont tout un processus qui fait que non seulement la matière en question est acquise, et je dirais de façon très, très marquée, parce que c'est tellement plus évident de retenir des choses un petit peu embêtantes par ce processus-là. Et en même temps, ils la communiquent. Les règles de grammaire, on en a appris quand on les a entendues, et ça parle.
Et ça permet aussi de réduire ce qui pourrait être de l'ordre du stress, quoi.
Absolument. Ah. Alors ça, ils n'ont pas beaucoup de stress, parce qu'ils sont dans la joie de restituer. Donc, apprendre, concevoir, imaginer, restituer, faire ensemble en permanence. Et donc, ils apprennent toutes ces valeurs fondamentales. Et ça m'a beaucoup amusé l'exemple de copier. Je n'ai jamais compris pourquoi on ne pouvait pas copier. Parce que quand même, après, on demande, au contraire, on essaye de demander, si possible, de coopérer. Et à l'école, c'est chacun dans son silo. Enfin, on a envie de penser de citer Bruno Latour qui dit « Il nous reste 50 ans de sol, si on n'arrête pas de fonctionner qu'en silo et de façon extractive, on ne va pas y arriver. On va vers la guerre. » Il faut coopérer.
Oui, en sachant qu'à l'école du domaine du possible, il n'y a pas de notes, il y a d'autres façons d'évaluer aussi, etc.
Et aussi, on demande aux enfants de s'auto-évaluer. C'est très important qu'ils soient maîtres de ces processus.
Donc on peut peut-être aussi copier plus facilement si on était auto-évalué par le voisin qui a vu ce qui se passait. La place de la poésie, Cyril Dion, importante aussi dans le développement, et non seulement des élèves, hein, parce que vous êtes poète, dans votre développement aussi, hein, j'imagine.
Ouais, mais pas à l'école, hein. En l'occurrence. Non mais c'est vrai, j'ai découvert la poésie après. Mmh. Là encore, enfin, c'est toujours pareil en fait, on apprend quelque chose quand on comprend à quoi ça sert, ou quand ça nous donne du sens. Moi, la poésie, à l'école, je comprenais pas à quoi ça servait. Et puis j'avais l'impression que c'était poussiéreux, que c'était qu'il fallait que ça rime. Ça me paraissait totalement en décalage avec mon existence. Et en fait, j'ai découvert la poésie après, par le rock. En fait, quand j'ai découvert les Doors, ben j'étais fou de Jim Morrison, et donc je lisais tout sur Jim Morrison, et puis je me suis rendu compte qu'il écrivait des poèmes, donc je me suis mis à lire ses poèmes, et là tout d'un coup il y avait un langage qui était un peu fou, qui était un peu vénéneux, et qui me racontait quelque chose à moi, ado. Et donc je me suis dit, waouh, c'est bien ça, la poésie. Puis ça a l'air de permettre de dire des choses qu'on peut pas dire ailleurs. Donc j'ai eu envie d'en écrire. Et donc j'ai eu aussi envie d'en lire d'autres. Et j'ai redécouvert des choses. J'ai redécouvert Rimbaud. À côté,
oui,
de
j'allais
qui
vous dire, il y a quand même du Victor
passé.
Hugo, du Ronsard, du Rimbaud, qui vous laisse quand
Rimbaud,
même des souvenirs
incroyables. Rimbaud, moi, le Dormeur du Val, en quatrième.
Exactement.
Je suis passé à côté. Ah, oui. Enfin, je veux dire, ok, bon, bah, super.
Moi, j'avoue que ça
et
m'avait
après,
saisi.
À 18 ans, quand j'ai lu Une saison en enfer de mon plein gré, là, ça m'a carbonisé le cerveau. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Je savais pas qu'on pouvait écrire comme ça. Je savais pas qu'on pouvait vivre comme ça. Je savais pas qu'on pouvait vouloir justement casser toutes les règles, toutes les normes pour inventer autre chose. Et c'est ça qui est fou. C'est d'apprendre Rimbaud de façon hyper normée, alors que c'était la personne la moins normée de la Terre. C'était quelqu'un qui rejetait tout ça, et d'essayer de le remettre dans une espèce de carcan. Et d'une certaine manière, il me semble que la question qu'on peut se poser, c'est à quoi on a envie de préparer les enfants ? Est-ce qu'on veut les préparer simplement à s'insérer dans le monde tel qu'il est, et en faire des bons petits soldats de l'économie ? Et auquel cas, bah, effectivement, c'est bien, ouais. On leur apprend à réfléchir le monde comme ils vont le trouver. Ou est-ce qu'on veut leur apprendre à créer, à être des êtres créatifs qui sont capables, justement, de bouleverser ce monde, d'inventer autre chose.
Créer la société
de réparer
de demain.
Un certain nombre des problèmes. Et puis, de trouver du sens à leur existence. C'est-à-dire que, il s'agit pas simplement d'aller bosser pour payer son loyer. Il s'agit de se demander qui on est, quelle expérience de vie on va pouvoir laisser sur cette planète pendant le temps qu'on y passera, et à quoi on a envie que ça serve.
Et faire émerger de nouveaux récits, ça me fait penser, Françoise Nyssen, à vos parents, hein, quand ils vous ont éduqué. Il y avait une ambition quand même première, c'était de donner un sens à la vie.
Oui, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, parce que j'ai été élevée par des parents qui essayaient de donner un sens à leur vie. Mais je dois dire que ça a commencé très, très tôt, parce que ma grand-mère, suédoise, en 14, la guerre est déclarée, la Suède reste neutre. Et ma grand-mère, qui vient d'être diplômée de kinésithérapie à 20 ans, décide que ce n'est pas possible de rester dans un pays neutre, et alors qu'il n'existe pas de téléphone portable, s'embarque sur un bateau et vient soigner les soldats français à Rouen. Je veux dire que quand on a eu la chance d'avoir ce modèle-là dans la vie, c'est vrai que ça donne un horizon à ce qu'on pourrait faire et ce qu'il serait peut-être judicieux de faire, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup inspirée. En fait.
Et puis bon, on ne rentrera pas dans toute votre histoire. Hein. Je crois que ceux qui veulent en savoir plus peuvent plonger dans Plaisir et Sérénité, hein, votre livre paru chez Stock, où vous racontez depuis votre enfance jusqu'à juste l'après-expérience ministérielle. Et on découvre aussi que la maison de campagne était très présente et que vous étiez au contact du vivant. Je n'en dis pas plus, parce que l'heure tourne et il faut aussi qu'on puisse partir sur ces sujets de la culture, en fait. Hein. La culture pour tous, c'est pas juste pour ou le meilleur pour certains. Il faut saluer le rôle des bibliothèques et des libraires. Alors, peut-être parmi les libraires, vous mentionnez d'ailleurs Ombre Blanche, hein, un oui. Salut appuyé à Christian Torel, quand même, et cette librairie exceptionnelle à Toulouse, hein, quand même, et le premier à avoir acheté, commandé des livres
Actes Sud. Oui, Actes
Sud, c'est ça. Et donc, le rôle des bibliothèques, parce que quand vous étiez ministre, justement, Françoise Nyssen, alors c'était du 17 mai 2017 au 16 octobre 2018, hein, 17 mois. Vous aviez quand même commandé, hein, si je ne m'abuse, un rapport sur les bibliothèques à Éric Orsina.
Tout à fait. Mais mon obsession en arrivant là, c'était de se dire, être en charge de ce plus beau ministère qui soit, c'est de mener une politique pour la culture. Or, la France est quand même un pays de cocagne pour la culture. On a une chance. Oui, par contre, qui y a accès et comment on y a accès ? Donc, savoir comment, où se passent les choses, comment... On peut déployer tout ça, donc l'idée du pass culture, donc l'idée d'élargir, enfin, la question des bibliothèques, avec notamment les horaires, parce que beaucoup de bibliothèques sont ouvertes au moment où les gens ne peuvent pas y aller, hein, parce que c'est pendant les heures de travail. Donc c'est quand même un peu embêtant. Et moi, je suis chaque fois partie d'expériences que j'ai connues à Arles quand la médiathèque a été créée et s'est ouverte. Elle était ouverte le dimanche. Et il y avait énormément de jeunes. Et puis pour des questions de personnel, elle n'a plus été ouverte le dimanche, eh bien, ils étaient dans la rue. Et c'est des petites choses simples, mais qui changent la donne.
Donc, il y en a plus de 16 000 en France, pour le rappeler.
Il y a plus de 16 000 en France. Donc c'est
et qui sont aussi des lieux de citoyenneté et de vivre ensemble.
Voilà. Et ça aussi, ça m'avait beaucoup frappé. C'est toute mon expérience de quartier, hein, de Bruxelles, de maison de quartier, parce que j'avais créé avec les gens du comité de quartier, une maison de quartier où on accueillait les enfants pour les aider. Parce que de chez eux, ils n'avaient pas la capacité peut-être de travailler, d'avoir la concentration qu'il fallait, et puis de faire des fêtes et tout. Donc tout ça, j'essaie de l'appliquer en cohérence, c'est-à-dire la proximité, de travailler aussi sur la question on revient sur ce sujet, l'éveil au sensible. L'éveil au sensible, il est essentiel. Je pense que la culture doit être présente dès le plus jeune âge à l'école. Et j'avais commandé à Sophie Marinopoulos un rapport là-dessus, dès la naissance. Et elle avait émis le terme tellement évident une fois qu'on l'a dit, qui est la santé culturelle. Elle est essentielle. On l'a vu pendant le confinement. Les gens, on peut résister grâce à l'échange culturel. Oui. Donc cette question de santé culturelle, elle est de base. Et pour autant, dans les processus d'éducation en France, elle est très, très, très absente. Or, on voit bien qu'un enfant qui apprend de la musique, par exemple, mais ça peut être aussi avec les autres arts, mais la musique, c'est, quand on chante ensemble, c'est s'écouter, c'est le rythme, c'est écouter quelqu'un qui vous dirige, c'est chanter dans toutes les langues, ça apprend tellement de choses, la coordination, donc c'est fondamental. Et on a publié le livre d'une auteure qui s'intitule « Tous naissent musiciens » et qui dit « C'est tellement formateur que c'est aussi important peut-être que l'apprentissage des mots. » Et elle termine en disant « Vous imaginez une école où il n'y aurait que une heure de mots par semaine ?»
Mais alors du coup, avec vos expériences, hein, à tous les deux, Cyril Dion, ce contact aussi avec le monde politique, bon, dans d'autres circonstances, hein, mais la Convention citoyenne pour le climat, etc., ou des rencontres avec président ou ministre, etc., Françoise Nyssen, donc votre casquette de ministre de la Culture, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Qu'est-ce qui ne passe pas le cap au niveau politique pour engager en fait des réformes, aider? On voit bien que c'est une société qui, de toute façon, pour faire face à des défis climatiques, environnementaux et des défis sociétaux dont on parle aujourd'hui, les solutions sont là. En tout cas, beaucoup de spécialistes, de scientifiques ont réfléchi et on voit bien que il y a quelque chose qui ne se fait pas dans ce monde-là, notamment. Françoise Nyssen.
D'abord, il y a une façon de gouverner ce pays, on l'a vu ces derniers temps, qui est très, très centralisée.
Très verticale.
Et c'est quand même un sacré problème. En plus de ça, c'est une école avec des... Une école.
C'est ça devrait être une école, peut-être.
Des personnels d'État très, très convaincus, très dévoués.
Formatés, on peut le dire, ou pas.
Formatés aussi. Oui. Il y a une école qui les a formés, formatés, et qui est une école, on leur a appris, ils sont très, très, très qualifiés, très intelligents, très éveillés, etc. Mais on leur a quand même surtout appris à contrôler. Et donc on est aussi dans un pays de la norme et de la précaution. J'avais adoré le recteur d'académie nous avait dit un jour, c'est bien simple, si avec ce principe de précaution, si Christophe Colomb avait été français, il n'aurait pas découvert l'Amérique. Donc c'est vrai que ça empêche en permanence, c'est des normes, c'est des règles, c'est affolant. Et c'est comme ça dans la culture aussi, et ce contrôle, donc il y a Les citoyens ne peuvent, alors qu'ils sont extraordinaires, on l'a vu dans la Convention citoyenne, la capacité qu'ils ont de comprendre et de proposer, et on n'en tient pas compte. C'est effrayant. C'est, tant qu'on sera là, je pense que ce sera un pays de blocage.
Mmh. Cyril Dion, votre regard, parce qu'on voit effectivement, il y a ces initiatives, il y a les livres que vous éditez qui sont censés justement éveiller, interpeller. On parle beaucoup quand même de ces questions-là et en même temps on se dit, mais qu'est-ce qui ne franchit pas en partie ? Ça ne veut pas dire que tous les citoyens ne sont pas justement ou conscients de ces enjeux, mais à relever, mais ils ne peuvent pas non plus tout seuls. Hein, on sait bien qu'une grosse partie, c'est quand même aussi des institutions et de gros organismes. Comment vous voyez les choses ? On voit aussi un sujet qui vous tient à cœur, hein, c'est le constat de Clive Hamilton. Hein, nous sommes tous un peu climato-sceptiques de par notre réticence à changer nos façons de vivre. On voit une montée du climato-scepticisme quand même, hein, qui est renseigné aussi en Europe et en France notamment.
C'est assez simple, hein, en fait, hein, ce qui se passe. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de grand mystère là-dessous. C'est-à-dire que on sait depuis, par exemple, si on parle que de la question climatique, on sait depuis les années 50, Capra a fait déjà un court-métrage en 58 où il racontait le changement climatique. Il l'avait mis en scène dans une petite fiction, donc vous pouvez retrouver sur Internet. Bon, globalement, tous les gouvernements et la plupart des grandes entreprises le savent depuis les années 70. Et 55 ans plus tard, on est arrivé à peu près au pire scénario qu'on pouvait imaginer. C'est-à-dire que là, l'année dernière, on a passé une année où on était à plus 1,6 degré par rapport à la température moyenne en 1850, et il faudrait qu'on ne dépasse pas 1,5 d'ici 2100. Donc, bon, on voit bien qu'on est en train d'y aller en plein. Pourquoi est-ce que ça se produit ? Parce que les personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui ont décidé de ne rien faire. Enfin, il y a une étude qui est assez édifiante d'un garçon qui s'appelle Martin Gillens. Enfin, c'est Page et Gillens qui ont publié ça à l'université de Princeton en 2014, qui cherchait à comprendre qui avait le pouvoir aux États-Unis. C'est-à-dire qui décidait vraiment et qui orientait les lois. Donc, ils ont pris plus de 2000 décisions publiques sur 10 ans. Et la conclusion de leur étude était de dire que dans 80% des cas, ce qui orientait les décisions publiques, c'était les 10% les plus riches de l'élite économique. Donc, à partir du moment où vous avez cette donnée-là, vous regardez qui sont les plus riches parmi les grandes compagnies. Jusqu'à il y a 10 ans, où ça a changé avec les entreprises de la tech type Apple, Amazon et tout ça, les plus riches, c'était les compagnies pétrolières et les compagnies d'énergie fossile. C'est celles qui avaient le plus gros chiffre d'affaires. Et il se trouve que ces compagnies-là ont dépensé des milliards pendant plusieurs décennies pour semer le doute sur la réalité du changement climatique, pour empêcher l'action publique. On a vu ça aussi dans l'industrie du tabac, on a vu ça dans l'industrie de la chimie, puisque tu étais chimiste. Ben voilà, enfin je veux dire, il y a pas de gros secret, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait prendre des mesures, par exemple, pour se passer du pétrole, et ceux qui ont le plus d'argent ont la capacité d'orienter les lois et empêchent la société de complètement se réorienter pour se passer de pétrole depuis 50 ans. Et ça marche.
Ça veut dire que peu d'espoir, c'est ça ?
Quelques chiffres.
François Nissen, allez-y.
Quelques chiffres que j'avais préparés récemment. Mmh. 62 fortunes possèdent à eux seuls la richesse de 3,5 milliards de pauvres, 871 millions d'affamés, 250 millions de migrants. Les paradis fiscaux brassent 2400 milliards d'argent et le trafic de la drogue, 300 milliards. Bon, voilà, c'est l'argent.
Vous gardez de l'espoir quand même, Françoise
Nissen.
Oui, Nissen.
Parce qu'il faut d'abord... on a envie de vivre, il y a de la beauté, et comme dit Jérôme Ferrari dans Le Principe, quelles étaient les horreurs de ce monde, puisqu'il parle de la bombe, on arrivera toujours à se réjouir de la beauté d'un lac et d'une montagne, et on arrivera toujours à se réjouir d'un poème et et du bonheur d'être ensemble. Parce que grâce au lien, eh bien, le lien fait vivre. Je crois que ça, c'est quand même l'amour. Mais l'argent est un sacré problème.
Et donc, écoutons peut-être aussi certains penseurs, hein, comme Edgar Morin, dans cette idée aussi d'acquérir la citoyenneté terrienne, chère à notre philosophe. Il s'exprimait ainsi sur France Inter le 14 juillet 2022.
Prenez ce que l'appelle aujourd'hui le péril climatique, qui est un aspect d'une tragédie écologique qui concerne toute la planète, qui est la dégradation de la vie et donc la dégradation de notre civilisation. Et depuis donc plus de 50 ans, on n'a presque rien fait. Pourquoi ? Nous n'avons pas été éduqués à comprendre la relation profonde entre le monde humain et le monde naturel. Ensuite, ce qui dégrade l'atmosphère, les sols, les villes, la vie, tout ceci est le produit d'un excès incontrôlé de production techno-économique animée par une soif de profit elle-même illimitée. Et tout ça conduit à cet somnambulisme dont on n'arrive pas à sortir. Aujourd'hui, il nous faut une pensée nouvelle, une pensée du monde, une pensée de l'homme, une pensée de l'aventure humaine. J'essaye, de ma modeste façon, d'apporter ma contribution, et c'est ça la seule voie à mes yeux.
Françoise Nissen, il nous trace des voies, Edgar Morin.
Il nous apprend à vivre.
Voilà, et je sais que ce qui vous habite aussi, c'est la voie tracée par votre fils, parce qu'il avait laissé un message. Là aussi, c'est peut-être des choses à faire ou à proposer. Qu'il y a autour de ces réalisations artistiques, hein, dessin, peinture, peut-être l'envie de partager ce qu'il nous a laissé.
Oui, et il nous a laissé comme message que peu importe où je suis, nous dit-il, ce qui m'importe, c'est que vous vous portez bien et que vous faites ce que vous aimez. Et c'est pour ça que cet engagement sur la transmission et l'engagement avec, ligne de flottaison, l'idée de la cohérence. Moi, j'étais une chose qui m'a toujours importante, c'est d'essayer d'être
le plus cohérente possible par rapport à tout ça. Et donc, c'est de travailler aux racines même de tout cela et d'amener des enfants à être des citoyens, justement, heureux, responsables, désirant être fraternel et accueillant. Et voilà, c'est tellement important. Et ça peut changer la donne.
Bien sûr, et l'école du domaine du possible, juste, a fait des émules, elle s'est déclinée ou non
Il y en a d'autres, je pense que c'est une expérience comme d'autres. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est très holistique, c'est qu'elle aborde toutes les questions. On ne dit pas c'est uniquement l'école de la nature ou une école de l'éveil au sensible à la musique. C'est, tous les problèmes sont pris dans leur globalité, et c'est ça qui est important. On ne peut pas traiter de l'écologie sans traiter de la question sociale, de la question de toutes les questions ensemble. Donc on essaye d'aborder les choses globalement dans tous ces aspects.
Cyril Dion, comme on sait que la poésie vous permet de continuer à avancer, vous allez peut-être nous lire un petit extrait de votre dernier livre, La route sans fin, paru au Castor Astral, puisque cette poésie, elle est imprégnée de ce qui vous habite, au positif comme au négatif.
Je vais vous lire deux textes. Je vais vous lire un texte qui est la quatrième de couverture, mais qui en fait est un peu plus long poème. Et après, je lirai un texte, un petit clin d'œil pour François, je vous dirai quoi. Que peuvent les vers face aux chars, au climat qui se dérègle, aux espèces qui disparaissent? Pas grand-chose. Et tout à la fois. Car c'est de piétiner la poésie que notre terre est malade. D'ériger des tours, de construire des parkings, d'aligner des hangars, de caresser à longueur de journée de petites plaques de verre rétro-éclairées plutôt que des pots, des écorces, des ruisseaux. Ce que nous perdons sous les coups de butoir de la croissance et de la compétitivité, c'est ça, c'est la poésie du monde. Alors peut-être que ce que notre planète nous disait à bas bruit, et qu'elle commence désormais à rugir, c'est que nous ne sommes pas nés pour construire pierre à pierre le cauchemar climatisé que Kerouac et Miller vomissaient. Mais que nous sommes ici pour les étreintes, les baisers et le babillage des merles. Et que notre salut tient à la poésie. Et je vais vous lire, en fait, Françoise m'a beaucoup aidé, quand mon fils Pablo était en difficulté, plein d'angoisse avec l'école et tout ça. Et je sais que ça a beaucoup touché Pablo et qu'ils ont une relation particulière. Et donc je vais vous lire un tout petit poème que j'avais écrit quand Pablo est né, qui est dans ce recueil. Ton corps recroquevillé est tout ce que le monde pourra jamais nous offrir. Tes mains, ton visage, les tremblements de ta bouche, sont des diamants étincelants à nos yeux fatigués de souffrance et de rêves abîmés. Toujours les luttes seront sereines et les rigoles saintes. Toujours la terre chantera, puisqu'un jour tu fus et que le monde avec toi s'en trouva illuminé.
Bien, vous avez un timing parfait, je pense que ça nous laisse sans voix. On a juste envie de méditer vos paroles. Françoise Nyssen, Cyril Dion, merci beaucoup à tous les deux. Merci Françoise Nyssen, je rappelle le titre de votre livre « Plaisir et nécessité » paru chez Stock. Cyril Dion, le petit manuel de résistance contemporaine, hein, toujours bon à mettre entre toutes les mains, hein, paru chez Actes Sud. Et puis le recueil de poésie préfacé par Nancy Houston, « La route sans fin » paru au Castor Astral. Informations, bibliographies, liens et plus, tout est à votre disposition sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, podcast, réécoute à déguster à loisir. Et puis comme le disait Françoise Nyssen, il est urgent de continuer de penser au plaisir et à la nécessité. Thank you.